Chapitre 58. Adieu Lévovitch. En arrivant à la banque ce matin-là, Macaire ne s'était pas senti aussi serein depuis longtemps. Depuis la mort de Jean-Bénédicte, malgré son accession à la présidence, il avait l'impression que tout lui échappait. Il avait été ballotté par la succession des événements. La disparition d'Anastasia, la lettre anonyme qui lui révélait qu'elle le trompait avec Lévovitch, puis Tarnogol qui était une machination de Jean-Bénédicte. Il en avait été tellement ébranlé qu'il avait perdu le sommeil et l'appétit. Il s'était posé 1000 questions. Il avait rejoué le film de ses 15 dernières années, s'efforçant de convoquer ses souvenirs les plus lointains et comprendre comment toute cette mascarade avait été possible. Il avait imaginé les théories les plus improbables. Il en était même venu à se demander si Anastasia et Jean-Bénédicte n'avaient pas été amants depuis tout ce temps, et si 15 ans plus tôt, ils n'avaient pas tous les deux monté une affreuse machination. Sous les traits de Tarnogol, Jean-Bénédicte lui aurait échangé ses actions contre l'amour d'Anastasia, et lui, comme un idiot, s'était laissé complètement avoir. Anastasia, dans la combine, avait fait semblant de tomber folle amoureuse de lui, et Jean-Bénédicte avait récupéré les actions. Par amour? Pour de l'argent? Les dividendes touchés par Tarnogol chaque année étaient colossaux. La banque faisait des centaines de millions de francs de bénéfices annuels, dont une grande partie était redistribuée ensuite aux 4 membres du conseil. Jean-Bénédicte avait-il promis une partie du butin à Anastasia? Pendant toutes ces semaines, Macaire s'était torturé l'esprit. Il s'était senti comme un pantin. Mais depuis la veille au soir, depuis son appel à Wagner, il avait l'impression que la roue tournait enfin. Il s'apprêtait à reprendre le contrôle de la situation. Il avait localisé Anastasia et surtout, il avait eu la confirmation qu'elle s'était enfuie avec Lévovitch. La lettre anonyme disait vrai. Il se demanda qui pouvait être au courant. Et qui lui avait envoyé ce courrier. Peu lui importait au fond. Ce qui comptait à présent, c'était sa vengeance. Macaire allait enfin pouvoir concentrer sa rage. Lévovitch l'avait sous-estimé. Il l'avait pris pour un idiot. Il se moquait de lui depuis des mois. Il n'avait pas quitté Genève parce qu'il avait besoin de recul. Il ne s'était pas installé à Athènes. Il vivait dans une maison du bord de mer à Corfou où il roucoulait avec sa femme à lui. Lévovitch avait tout prévu depuis le début. Il avait refusé la présidence pour mieux s'enfuir avec Anastasia. Était-il de mèche avec Jean-Bénédicte? Était-ce un trio maléfique? Avait-il éliminé Jean-Bénédicte? Macaire s'efforçait de ne pas trop prolonger ses ruminations, se concentrer sur ce qui était à sa portée, détruire Lévovitch, salir son nom et sa réputation. Ce matin-là, Macaire mit froidement à exécution son plan baptisé « Opération Adieu Lévovitch ». Son idée était assez simple. D'après ce que lui avait raconté Charlotte, la police avait la certitude que Jean-Bénédicte, alias Tarnogol, avait bénéficié d'une complicité au sein de la banque. Il n'aurait pas pu orchestrer cette imposture seul, ne serait-ce que pour se dédoubler pendant les séances du conseil. Macaire allait donc faire de Lévovitch le complice de Jean-Bénédicte. Grâce à son stratagème, Lévovitch serait immédiatement accusé. La police irait l'alpaguer Fissa dans sa maison de rêve à Corfou. Extrader les menottes au poignet. La chute. Désormais, la première page des journaux pour Lévovitch, ce ne serait plus en compagnie du président de la République française, mais débarquant d'un fourgon cellulaire au palais de justice de Genève. On lui collerait peut-être le meurtre de Jean-Bénédicte sur le dos, qui sait? Lévovitch condamné à perpétuité et Anastasia désormais seule, qui reviendrait en rampant, lui demander pardon. À la banque, il attendit patiemment que Christina s'absente de son bureau pour sa pause habituelle du matin. Aussitôt que la voie fut libre, Macaire descendit d'un étage sans se faire voir. Il se glissa jusque dans le bureau de Lévovitch qui, malgré son départ en Grèce, était resté tel quel pour le moment. Il ouvrit l'un des tiroirs de sa table de travail et il y glissa les deux pièces à conviction qui accableraient Lévovitch. Le mouchoir brodé au nom de Signor Tarnogol, que Macaire avait subtilisé ce fameux soir où il était revenu de Bâle. À l'intérieur du mouchoir, Macaire avait dissimulé la bague de fiançailles rendue par Anastasia avant de s'enfuir. Cette bague était ce qui avait scellé 15 ans plus tôt le pacte avec Tarnogol. C'est Tarnogol qui l'avait donné à Macaire le soir de leur rencontre au palace de Verbier, lui assurant que celle à qui il offrirait l'aimerait en retour. Et lui, tellement amoureux, tellement désespéré, qu'il y avait cru. Il cacha le mouchoir entre une pile de dossiers et s'en alla rapidement. Lorsque Christina revint de sa pause, Macaire était au téléphone. La porte de son bureau était grande ouverte et elle entendit la conversation. « J'en suis certain, Lev, » dit Macaire dans le combiné qui sonnait en continu dans son oreille. « Je t'avais donné le dossier, Stevens. Tu es sûr que tu n'as pas pris à Athènes avec toi ?»« Bon, je suis très embêté. D'accord, tiens-moi au courant. » Macaire accrocha et soupira bruyamment, comme s'il était terriblement contrarié. « Ça ne va pas ?» ne put s'empêcher de demander Christina. « Levovitch a égaré un dossier client. C'est le problème quand on est sans cesse par Mont et par vous. Je lui avais confié des éléments très importants, impossible de mettre la main dessus. Il dit qu'ils ne sont pas dans son bureau d'Athènes. » « Et dans son bureau ici ?» suggéra Christina. « Vous voulez que je descende vite jeter un coup d'œil ?»« Ah tiens, je n'y avais pas pensé. » avoua Macaire. « Je vais venir avec vous, ce sera plus simple. » Quelques instants plus tard, Macaire et Christina retrouvaient le cinquième étage et leurs anciens bureaux. Ils entrèrent dans celui de Levovitch. Macaire s'attaqua aussitôt à l'armoire. Christina se rabattit sur les tiroirs du bureau. Soudain, elle resta interdite. Macaire, qui l'observait, lui demanda « Tout va bien, Christina ?»«
Je ne sais pas. »
Macaire buvait du petit lait. Il s'approcha d'elle. « Vous avez trouvé le dossier Stevens ?»«
Non, » dit-elle. « J'ai trouvé ce mouchoir, avec une bague dedans. »«
Signor Tarnogol ?» lut Macaire sous la broderie du mouchoir. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Et cette bague ? Pourquoi Levovitch conserve-t-il un mouchoir et une bague de Tarnogol dans son bureau ?»«
On dirait plutôt une bague de femme, » fit remarquer Christina en observant le diamètre de l'anneau.
« Et cette pierre est plutôt féminine. On dirait un saphir. Je ne me souviens pas d'avoir vu Tarnogol porter un saphir. »
Macaire, sentant que sa combine ne prenait pas, voulut appuyer son mensonge.
« Pourtant, maintenant que je vois cette bague, je suis certain d'avoir vu Tarnogol la porter en pendentif, autour d'une chaîne en or. Je m'en souviens bien. J'étais chez lui et j'étais marqué par ce bijou. C'est pour cela que je m'en souviens. »
Christina dévisagea son patron. « Vous êtes allé chez Tarnogol ?»
Macaire se mordit la langue. Il venait d'en dire trop.
En fin de journée, ce même jour, au siège de la police judiciaire, boulevard Karl Vogt.
« Merci, Monsieur Besner, de prendre le temps de venir, »
dit le lieutenant Sagamore en installant Macaire dans une salle interrogatoire.
« Veuillez me pardonner de vous recevoir dans un lieu aussi peu accueillant, mais nous n'avons pas de salle de réunion disponible.
Ne vous en faites pas, lieutenant. C'est toujours intéressant de voir l'envers du décor. On se croirait dans une série policière. »
Sagamore sourit.
« Donc, vous avez trouvé une bague appartenant à Signor Tarnogol dans le bureau de Lev Levovitch à la banque, c'est bien ça ?»«
Enfin, » précisa Macaire, « c'est ma secrétaire qui l'a trouvée. Nous cherchons un dossier dans le bureau et elle est tombée dessus. C'est d'ailleurs elle qui m'a suggéré de vous contacter. »
« Oui, je lui ai parlé tout à l'heure. Elle m'a dit que vous avez reconnu le bijou, c'est exact ?»
Macaire songea qu'il fallait la jouer finement pour se sortir de ce guépier.
« Eh bien, je dois d'abord vous dire ici que Charlotte Hansen, la veuve de Jean-Bénédicte Hansen, m'a informé il y a quelques semaines que son mari aurait incarné Signor Tarnogol, et que ce dernier n'aurait été qu'une immense supercherie.
« Oui, c'est ce que nous pensons, » confirma Sagamore.
« Je ne vous cache pas que cette nouvelle m'a bouleversé, notamment parce que j'étais très proche de mon cousin. Depuis, je n'ai eu de cesse de repenser à toutes les fois où j'ai passé du temps avec Tarnogol pour essayer d'assembler les pièces de ce puzzle. C'est pour ça que, lorsque j'ai vu ce bijou, j'ai aussitôt eu un flash.
Vous avez reconnu ce bijou comme ayant été porté par Tarnogol, c'est cela ?
Oui, exactement.
« Et où l'avez-vous vu avec ce bijou ?» demanda Sagamore.
« À la banque ?»
Macaire eut une hésitation. Il n'avait aucune envie de devoir expliquer à la police ce qu'il fabriquait chez Tarnogol. Mais il ne pouvait pas non plus changer la version qu'il avait donnée à Christina. Si Sagamore l'avait interrogé sur ce point, il fallait que leurs deux versions se recoupent.
« J'ai vu cette bague portée par Tarnogol en pendentif un jour où j'avais dû me rendre chez lui. » J'étais étonné de ce bijou de femme qu'il conservait comme un talisman, c'est pour cela que je m'en souviens. Sur le moment, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un souvenir d'un amour perdu ou quelque chose du genre.
« À quelle occasion êtes-vous allé chez Tarnogol ?» questionna Sagamore. Macaire prit un air détaché.
« Il m'avait invité. Je n'ai pas le souvenir d'une occasion spéciale. C'était peu avant l'élection du nouveau président de la banque, j'imagine qu'il voulait s'entretenir avec les différents candidats potentiels.
« Monsieur Besner, » dit alors Sagamore.
Pardonnez-moi de vous embêter avec cela, mais pourriez-vous me décrire en détail l'intérieur de l'hôtel particulier de Signor Tarnogol ?» Macaire s'étonna de cette question. Il se demanda si c'était un test pour vérifier l'authenticité de ses dires. Sagamore avait certainement perquisitionné l'hôtel particulier de Tarnogol et connaissait donc la disposition des lieux. Il décida donc de faire un récit exact et détaillé.
« C'était un soir. Nous avons dîné. Plutôt tard. Un buffet froid, très élégant. Du saumon, du caviar, enfin des mets très fins, quoi. Tout était très classe.
Les lieux ?» l'interrompit Sagamore. « Pouvez-vous me décrire les lieux ? L'immobilier, les différentes pièces ?»
Je ne me souviens qu'en entrant, on tombait directement sur un ascenseur et des immenses escaliers en marbre blanc. Je n'ai vu que le salon dans lequel Tarnogol m'a reçu. C'était au premier étage. Au moins trois salons en enfilade, séparés par des parois amovibles. Celui où nous étions était magnifiquement tapissé. Je me souviens des canapés sur lesquels nous étions, très confortables, en velours bleu. Il y avait une table ronde près de la fenêtre sur laquelle était dressé le buffet, une table genre Louis XVI. Enfin, Louis je ne sais pas combien, mais genre antiquité, quoi.
Est-ce que quelque chose en particulier vous a frappé? Par exemple, un objet, un tableau, une œuvre d'art?
Macaire prit une seconde de réflexion, puis il dit
« Il y avait un immense tableau sur l'un des murs, tout en longueur, qui représentait une vue de Saint-Pétersbourg. Je me rappelle bien de ce tableau car Tarnogol l'a longuement commenté, me racontant ses origines familiales. »
Une fois que Macaire eut terminé sa déposition et quitté la salle d'interrogatoire, Sagamore rejoignit une pièce attenante, depuis laquelle, grâce à une retransmission vidéo, Christina avait pu assister à toute la scène.
« Alors ?» lui demanda Sagamore. « Tiens, pense quoi ?»
« N'en sais rien. Il a l'air de dire la vérité.
Ou alors c'est un extraordinaire acteur.
Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander et si c'était lui le complice de Jean-Bénédicte Hansen. Et si c'était lui qui avait incarné Tarnogol quand il devait se montrer en présence de Jean-Bénédicte Hansen. À présent qu'il sait que son cousin était démasqué, il glisse des objets chez Levovitch pour se dédouaner. C'est quand même un heureux hasard qu'il m'ait demandé de fouiller les tiroirs du bureau et que je tombe sur cette bague et ce mouchoir. »
J'ai de la peine à croire à une coïncidence.
Sagamore acquiesça.
Tu penses que sa description de l'hôtel particulier est exacte?
Difficile à dire, concéda Christina.
Lors de la perquisition de l'hôtel particulier, après le meurtre, la police avait découvert des lieux vides. Le mobilier avait disparu, comme pour ne laisser aucune trace. Tout ce qu'on avait retrouvé, c'était un carton oublié au fond d'une armoire, contenant des effets appartenant à Jean-Bénédicte Hansen. Un voisin avait indiqué que des camions de déménageurs avaient tout emporté le jeudi précédant le meurtre. Mais il avait été impossible de remonter jusqu'à la compagnie de déménagement. Sagamore fit la moue.
« Nous manquons cruellement d'éléments concrets pour étayer les différentes thèses, » dit-il.
« Si seulement on pouvait faire parler cette bague, »
soupira Christina en agitant un sac plastique contenant le bijou retrouvé dans le tiroir de Levovitch. Sagamore trouva l'idée très bonne.
« Je connais quelqu'un qui peut nous aider !» s'écria-t-il soudain. « Viens, en route !»
10 minutes plus tard, la voiture de police banalisée de Sagamore se garait devant une petite bijouterie d'occasion du quartier des Paquis. Malgré l'heure tardive, le magasin était encore ouvert. Le propriétaire, un certain Franck, était un original, au physique peu commode et qui avait été impliqué par le passé dans des affaires de recel de diamants. Il était depuis rentré dans le rang, servant occasionnellement d'indic à la police, lorsque des anciennes connaissances essayaient de lui refourguer un bijou volé. Sagamore et Christina entrèrent dans la boutique déserte et Franck les salua jovialement.
« Lieutenant, quel plaisir de vous voir! Vous venez vous offrir une montre ?»«
Je viens chercher des informations, »
répondit Sagamore en déposant la bague sur le comptoir.
« Qu'est-ce que vous voulez savoir ?»«
Tu peux retrouver l'origine de cette bague ?»
Franck eut un air dubitatif.
« À première vue, ça me semble difficile, lieutenant. « Mais je veux bien regarder. »
Franck se saisit du bijou et l'étudia au moyen d'une loupe.
« C'est pas une bague de grande valeur, »
constata-t-il.
« C'est pas un véritable saphir. »«
Quoi d'autre ?»
demanda Sagamore. Franck prit le temps d'observer attentivement la pierre. Il s'installa à sa table de travail, changea de loupe, passa la bague sous différentes sources de lumière, puis il dit
« J'ai l'impression qu'il y a une inscription dans le sertissage, mais elle est cachée par la pierre. »
« Tu arrives à lire quelque chose ?»«
Non, il faudrait que je la dessertisse. »«
Fais-le, »
ordonna Sagamore. Franck s'exécuta.
il détacha la pierre de son arceau et il put lire ce qui avait été gravé à l'intérieur. Kaham Bijoutier, Genève, 45 60 953. Kaham était un vieux bijoutier installé depuis des décennies rue Étienne-Dumont, au cœur de la vieille ville de Genève. Les heures d'ouverture de sa boutique étaient aléatoires et Sagamore dut patienter longuement avant que le commerçant ne se décide enfin à ouvrir son magasin. Les lieux étaient poussiéreux et sombres. En y pénétrant, Sagamore songea que le vieux Kaham ne devait plus vendre grand-chose depuis longtemps.
« Je suis le lieutenant Philippe Sagamore », se présenta le policier en montrant son badge.
« La police ?»
s'étonna le vieux en plissant des yeux.
« Oui, la brigade criminelle. J'enquête sur un meurtre. »
Le vieux haussa les épaules, sans que l'on sache si ça ne l'intéressait pas ou s'il n'avait pas compris. Sagamore lui montra la bague, dont la pierre n'était désormais plus fixée à son arceau.
« Vous voulez la réparer ?» demanda Kaham.
« Non, » répondit Sagamore. « Cette bague vient de chez vous. J'ai besoin de savoir qui vous l'a achetée. »
Étonnamment, la réponse à cette question fut particulièrement facile à trouver. Kaham, qui considérait que chacune de ses créations était unique, avait minutieusement numéroté chacune d'elles. La référence, associée au nom de l'acheteur, était reportée dans d'immenses livres de comptabilité qui s'étaient entassés au fil du temps. Après avoir remonté les années en égrenant ses interminables inventaires, Kaham posa soudain son doigt sur une ligne et poussa un cri victorieux. Il avait trouvé. Sagamore se précipita pour lire l'inscription. 45 60 953. Bague en or avec zircon bleu. Acheteur, Sol Levovitch. À ce même moment, à Corfou. C'était la fin de matinée, Anastasia prenait un petit déjeuner tardif sur la terrasse de la maison. En face d'elle, Levovitch lisait le journal. Il semblait heureux et insouciant. Elle n'osa pas lui parler de ce qui la tracassait de plus en plus. Elle ne cessait de repenser à ce qui s'était passé quelques heures avant le meurtre, lorsqu'elle avait découvert que Tarnogol était une imposture.